Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 22h.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, malgré tous les efforts de la Première Ministre Theresa May, les députés anglais ont une nouvelle fois rejeté son projet d'accord sur le Brexit. Toutes les conséquences de ce refus dans un instant du Plex de Londres. L'Europe et la France en phase pour refuser le survol des frontières par des Boeing 737 MAX dernière génération après bien des interrogations suscitées suite au crash de ce modèle en Éthiopie dimanche dernier. Bernard Tapie à la barre pour convaincre les juges au deuxième jour de son procès qu'il a bien été floué dans le cadre de l'arbitrage du Crédit Lyonnais lors de la vente de la marque aux trois bandes. Les journées nationales de l'audition qui mettent en garde les jeunes contre le volume, les décibels. Opération prévention pour nos oreilles que nous détaillera dans un quart d'heure le professeur Jean-Luc Puel. La météo, attention au fameux giboulet de mars. Demain, nous dira Louis Baudin. Et puis le football ce soir et le retour gagnant du PSG à la compétition. 4-0 à Dijon après, bien évidemment, sa désillusion européenne. N'oubliez pas vos rendez-vous, 22h20, magazine de l'écho. Et comme nous sommes mardi, 22h25, coup de cœur ciné. Ce soir avec Stéphane Boutsock avant de retrouver Caroline Dublanche, comme chaque soir pour Parlons-nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur la Première Radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Les députés britanniques ont donc rejeté ce soir l'accord de Brexit négocié entre Londres et Bruxelles par 391 voix contre 242, ce qui plonge à nouveau Marie Billon, le Royaume-Uni, dans l'incertitude, et ce à 17 jours de la date du divorce programmé.
Et oui, Theresa May vient d'essuyer une nouvelle énorme défaite. Encore une fois, c'est sa vision du Brexit qui a été rejetée par les députés. Mais cette fois, la Première Ministre semble encaisser la défaite et ne pas l'ignorer. Il y aura un autre vote demain. Les parlementaires décideront s'ils veulent sortir de l'Union Européenne le 29 mars, même sans accord, le fameux no deal. Et la grande nouveauté, c'est qu'elle a décidé de ne pas imposer une discipline de parti. Elle n'obligera pas ses députés à voter dans un sens ou dans l'autre. Ce qui signifie qu'elle avoue qu'elle a perdu la maîtrise de ses parlementaires. Elle sait qu'un no deal serait largement rejeté à Westminster. Alors, est-ce la première étape vers un aveu de défaite complet ? Theresa May est-elle en train d'envisager une démission ou au contraire, s'évite-t-elle une nouvelle défaite demain pour conserver le pouvoir ? Pour l'heure, en tout cas, son autorité est aussi brisée que sa voix.
Marie Billon à Londres pour RTL. Le vote de rejet du Parlement britannique ce soir a accru de façon significative le risque d'un Brexit sans accord. C'est ce que vient d'estimer le porte-parole du président du Conseil européen. C'est le président qui s'est exprimé, Donald Tusk. L'Union européenne, elle, serait prête à considérer un report de la date du Brexit si le Royaume-Uni devait en faire partie et devait en faire une demande motivée surtout. Même son de cloche en France, la solution à l'impasse ne peut être trouvée qu'à Londres. C'est ce que vient de communiquer l'Élysée. Elle regrette, en tout cas l'instance française, ce vote, bien sûr, contre Theresa May, en précisant que Paris ne pourrait en aucun cas accepter une extension de la date du Brexit sans une stratégie alternative crédible de la part du Royaume-Uni tout entier. La France, dans le sillage également de nombre de pays, notamment l'Europe, après le crash du Boeing d'Ethiopian Airlines qui a fait, rappelons-le, 157 morts dimanche dernier en Afrique, la France a donc décidé à son tour de fermer son espace aérien à ce tout nouveau modèle de Boeing, le 737 MAX, déjà dans l'œil du cyclone, après un crash il y a quelques semaines en Indonésie. Décision prise, Pierre Julien, dans l'attente bien sûr du résultat de l'enquête.
Oui, la Direction Générale de l'Aviation Civile le précise, les autorités françaises restent attentives à tous les éléments pouvant provenir de l'enquête, car les deux boîtes noires retrouvées n'ont pas encore parlé, mais comme d'autres agences, elles préfèrent prendre les devants en interdisant de vol ce nouveau modèle de Boeing 737. Les compagnies de l'Hexagone ne disposent pas de MAX dans leur flotte, et très peu d'appareils aux livrées étrangères se posaient à Paris, 3 au dernier recensement, mais on ne sait jamais. Une low cost comme Norwegian a décidé de clouer au sol temporairement ses 18 737 MAX. Elle va devoir réorganiser son réseau avec des Boeing d'une génération précédente. Du côté de Ryanair, qui attend le premier de ses 135 appareils commandés fermes, le patron irlandais Michael O'Leary se veut optimiste et n'envisage pas de retard dans les livraisons. Pour le moment, aux États-Unis, les MAX ne sont pas interdits de vol. Cependant, l'Agence fédérale aéronautique, la FAA, a signifié à Boeing de modifier le système automatique de prévention des décrochages, celui qui était en cause dans le crash de Lion Air en octobre dernier en Indonésie.
Pierre Julien, spécialiste aéronautique d'RTL. Et puis le naufrage d'un cargo qui inquiète. Le Grande America qui a pris feu à 300 km des côtes bretonnes dimanche dernier a coulé cet après-midi. La question se pose ce soir désormais sur les risques de pollution éventuelle, visible comme invisible. Patrice Gabart vient de joindre Jean-Paul Elquin. Il est le porte-parole de l'association environnementale bretonne Morglaz.
Son moyen de propulsion, c'est du fuel lourd. Donc, tôt ou tard, il y aura forcément une pollution occasionnée par le même type de produits que celui que transportait l'Erika. Mais également, nous sommes inquiets parce que cet armateur italien a comme business de transporter des pays du nord vers les pays du sud, des vieux camions, des vieilles voitures, des vieux pneus, enfin, disons, tout type de déchets que l'on ne veut pas traiter en Europe.
Jean-Paul Elquin avec Patrice Gabart, correspondant Grand Ouest de la première radio de France. RTL Grand Soir, 22h05. Bernard Tapie à la barre, opération défense dans le procès qu'il oppose au Crédit Lyonnais concernant les fameux 400 millions récupérés par l'homme d'affaires à l'époque de l'arbitrage dans l'affaire Adidas. Au deuxième jour, on a retrouvé aujourd'hui Alice Moreno et Bernard Tapie, tout à la fois acteur, battleur, victime, mais également accusateur.
Oui, dès les premières secondes de son audition, Bernard Tapie donne le ton. « Je vais tout reprendre depuis le début », promet-il. La voix grave de l'homme d'affaires résonne dans la salle. « Je n'ai pas pillé l'État, contrairement à ce qui a été répandu dans la presse. Pour moi, les vrais voyous sont ceux qui ont encaissé 2 milliards au moment de la revente d'Adidas. » Amaigri, le visage pâle, Bernard Tapie n'a pourtant rien perdu de sa verve. « Qui a encaissé ce fric », s'emporte-t-il. « Une banque qui utilise des paradis fiscaux, tout ça, c'est une rigolade. » Il réclame des documents à ses avocats, impatient. « Bon, vous l'avez, non pas celui-là, je m'en fiche de ça », s'agace-t-il. Quand la présidente reprend des éléments du dossier, il lui coupe la parole. Elle tente de reprendre la main, balbutiante, puis propose une suspension d'audience. Bernard Tapie décline. « Non, je suis trop content qu'on parle du dossier ». Quand le procureur le questionne à son tour en reprenant des éléments de la vente Adidas, le prévenu Tapie chausse ses lunettes, s'approche du procureur, demande à voir le document de vente, éclat de rire dans la salle. Bernard Tapie, l'acteur, semble prêt à tout pour prouver que le Crédit Lyonnais elle a trompé, quitte à mettre en avant son état de santé. Là encore, quand la présidente intervient, il réagit. Enfin, on tombe par terre avant de conclure et on cherche pourquoi j'ai un cancer à l'estomac.
Alice Moreno au Palais de Justice de Paris pour RTL. L'affaire Adama Traoré de retour sur le devant de la scène. Une expertise médicale demandée par la famille contredit les conclusions de l'enquête sur la mort du jeune homme à la suite de son interpellation, on s'en souvient, en juillet 2016. Depuis cette date, le décès du jeune garçon était attribué à son état de santé antérieur. Les juges, rappelons-le, avaient terminé leur investigation en fin d'année dernière sans avoir mis en examen les gendarmes. La politique et le Parlement européen qui a décidé aujourd'hui de lever l'immunité diplomatique de Jean-Marie Le Pen qui pourrait donc être rattrapé par l'affaire des assistants parlementaire. Pendant ce temps-là, sa fille, Marine Le Pen, a pu constater, elle, que son parti connaissait une belle embellie dans un sondage pour notre confrère du Monde. Pas moins de 7 points en plus et pas moins de 47% des Français qui pensent que le Rassemblement National est en capacité d'accéder au pouvoir.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Plus de 8 millions de personnes dans le monde meurent aujourd'hui de la pollution, 1 million de plus que pour les victimes du tabac. En France, on parle de 67 000 morts dues aux particules. Virginie Garin, vous avez analysé en détail, de près en tout cas, de très près cette étude.
Oui, le tabac tue 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Et bien la pollution ferait plus de 8 millions de morts selon cette étude publiée dans la très sérieuse revue European Heart Journal. En France, on cite souvent une estimation de 48 000 décès. Et bien la pollution tuerait plutôt 67 000 personnes. Alors les chercheurs n'ont pas découvert de nouvelles maladies liées à la mauvaise qualité de l'air, elles sont connues, cancer, pathologie cardiaque, mais ils ont calculé autrement l'exposition de la population. Elle avait été, selon eux, sous-estimée. Alors cette pollution, elle a différentes causes, le trafic automobile, mais aussi le chauffage, les fumées d'usine. Les auteurs de l'étude appellent à baisser d'urgence les seuils admissibles dans les grandes villes. Cela dit, les normes existantes ne sont déjà pas respectées, et notamment en France. C'est la raison pour laquelle Bruxelles a décidé de poursuivre l'État français devant la Cour de justice européenne pour son manque d'action. L'air est trop pollué dans une dizaine de grandes villes. La France risque une amende de 11 millions d'euros.
Virginie Garin, service santé d'RTL. Nous dormons de moins en moins. C'est le résultat d'une grande enquête menée par Santé publique en France et publiée aujourd'hui. Pour la première fois, nous sommes passés en effet en dessous de la barre dès 7 heures lorsque l'on travaille, pour être exact, 6h34 de dodo. En une cinquantaine d'années, nos nuits ont donc perdu entre 1h et 1h30 la cause au bruit, aux écrans et autres tablettes. Alors justement, je vous propose un plongeon dans le passé sans plus tarder. Il y a 30 ans, beaucoup d'entre nous découvraient une drôle de machine, un drôle de moyen de communiquer en partageant, incroyable, hein, des données et un mot nouveau alors, surtout le mot Internet, mis en ligne par un ingénieur britannique, Tim Berners-Lee, le 12 mars 1989. Et ce soir, notre spécialiste numérique, spécialiste 2.0, Sophie Jousselin, nous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne pouvaient pas connaître.
Oui, assis sur un banc, smartphone en main, Louise et Lucas discutent avec leurs amis sur les réseaux sociaux. Comment faisait-on avant Internet? Le lycéen imagine ce qu'étaient les rencontres d'antan.
Il y avait sûrement des groupes, on se réunissait entre amis, peut-être dans les restaurants, dans la bibliothèque.
Oui, Lucas, nous les jeunes de l'époque, eh bien, on se parlait autour d'un verre et même parfois on cherchait des numéros de téléphone dans des gros bouquins qu'on appelait des annuaires.
J'ai dû voir une fois, oui, mais je m'en sers pas, non.
Du nom de la personne, et donc le numéro s'affichait, mais il y avait l'erreur potentielle du nom de famille qui correspondait à plusieurs personnes différentes, puisqu'on n'avait pas l'image de la personne, oui, c'était plus compliqué.
Et cette vie d'avant ne fait pas rêver les deux jeunes lycéens.
Moi je trouve ça difficile parce que avec Internet on peut tout faire, on peut acheter des vêtements, de la nourriture en ligne, on n'a pas besoin de se déplacer.
On est baigné là-dedans depuis le début, donc ça ne nous donne pas forcément envie de retourner dans le passé.
Mais Louise le reconnaît, Internet prend parfois trop de place dans sa vie et ses grands-parents lui font bien remarquer.
Ils nous disent eux-mêmes, s'il n'y avait pas Internet, tu profiterais plus de la vie en fait, tu sortirais alors que maintenant on est sur nos écrans, enfermés dans la chambre, dans le noir.
Et avant Internet, Lucas et Louise, nous, on a connu le Minitel, pas vous, toc.
Voilà, ça c'est dit. Sophie Jousselin, RTL. Allez, le football et le Paris Saint-Germain qui a retrouvé un petit peu de sourire après la désillusion. La semaine dernière, élimination Ligue des Champions par Manchester United. Ce soir, en match en retard, le PSG est allé gagner 4-0 à Dijon. Les buteurs, Marquinhos, Mbappé, Di Maria, Choupo-Moting, pour le plus grand bonheur ou presque de Thomas Tuchel, l'entraîneur.
Oui, j'ai attendu ça parce que on a parlé beaucoup. J'étais très calme et convaincu que nous sommes capables de montrer encore et de recommencer encore. Et maintenant, c'était le moment pour jouer encore. L'équipe a fait très très bien. On a joué avec une bonne mentalité, avec beaucoup de qualité. C'était un premier pas parce que c'est à nous de montrer que nous pouvons réagir comme des champions. On ne peut pas gagner la Ligue des Champions cette saison, mais on peut réagir comme des champions et c'était un premier match et une bonne réaction de mon équipe.
Réagir comme des champions, Thomas Tuchel avec Philippe Sanfourche ce soir à Dijon. Barça-OL, c'est demain, la dernière chance de qualification pour l'écart pour un club français. Demain matin, Bruno Genesio, l'entraîneur, sera l'invité d'Yves Calvi dès 8h20 sur la première de Radio de France. Ce soir, la Ligue des Champions, la Juve qui pour l'instant fait 2-0 face à l'Atlético Madrid de Griezmann. Grâce à Ronaldo par deux fois, la Juve va peut-être jouer une prolongation. Et puis l'autre match du soir, Manchester City qui cartonne face à Schalke, 3-0, City quasiment qualifié. La météo, je sais que ça vous intéresse, Thibaut, dans le football. Météo pour demain, c'est avec vous, Louis, bonsoir.
Bonsoir Christophe, demain c'est le retour des giboulées. C'est avec la perturbation qui est en train de traverser la France, là en ce moment, qui en cours de nuit va se décaler vers l'est, eh bien laissera après son passage un temps très agité, très instable, typique des giboulées de mars. Donc demain, on retrouvera quasiment sur toutes les régions des passages nuageux, des éclaircies, des averses sous forme de pluie, de grêle ou encore de neige en montagne. C'est neige qui pourra tomber en abondance l'après-midi sur les reliefs de l'est. Et puis quand même près de la Méditerranée, un peu plus de soleil, mais avec du vent que l'on retrouvera partout d'ailleurs, puisque les rafales atteindront encore les 70 à 80 km/h, y compris dans les terres, le tout avec des températures en baisse. Alors peu de gelée demain matin, sauf peut-être du côté de la région Rhône-Alpes, et puis l'après-midi, 10 à 13 degrés dans la plupart des régions, en nette baisse par rapport à aujourd'hui, 14 à 17 près de la Méditerranée.
Merci à vous, Louis Baudin.